Pour ceux qui ne me connaissent pas, Frédéric Nicolas, je suis le pasteur de Cahors et heureux d'être avec vous. Voilà, on avait reçu Michael il y a quelques temps et puis c'était à charge de revanche et voilà, je suis là ce matin. Et ce matin, on a parlé de grâce, on a parlé de l'amour de Dieu, on a parlé de toutes ces choses. Et je voudrais vous partager ce matin un texte dans l'évangile de Jean au chapitre 17. Voilà, juste quelques versets. L'évangile de Jean, chapitre 17, versets 20 à 23. Alors, je vais essayer de mettre les textes, mais c'est toujours délicat parce que quand on met les textes, les gens ils lisent plus leur Bible, ils vous amènent plus leur Bible. Voilà, mais je voudrais quand même, par rapport à tout ce qui a été dit ce matin sur l'amour de Dieu, sur la grâce de Dieu, je voudrais que ces choses puissent marquer votre cœur. Alors voici ce texte. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Vous savez, ça fait des années que je médite sur ce chapitre 17. Et ça fait des années que Dieu me parle avec ça. Et je trouve que c'est un texte merveilleux. Voilà. On vient de, avec l'église, avec un petit groupe, on vient de faire tout l'évangile de Jean. Et on s'est vraiment régalé. Il y a même des inconvertis qui sont venus et qui ont suivi parce qu'en échangeant comme ça, vraiment Dieu nous parlait aux uns et aux autres. Et c'était vraiment quelque chose de formidable et de merveilleux. Alors, voilà ce que j'ai sur le cœur à propos de ce texte. Vous savez que ce texte, c'est le dernier moment public de Jésus. Hein, c'est un temps où, dans l'évangile de Jean, il y a ce ministère public de Jésus. Et puis, à partir du chapitre 13, il va être uniquement avec ses disciples. 13, 14, 15, 16. Et puis, chapitre 17, c'est un moment d'intimité avec son Père. Et à partir du chapitre 18, c'est l'arrestation, c'est toute la dernière partie un peu dramatique de cette ministère public de Jésus. Et là donc c'est un moment d'intimité avec son Père. Et Jésus va commencer cette prière du chapitre 17 en demandant à Dieu qu'il le glorifie, qu'il lui redonne cette place qu'il avait auparavant auprès de lui. Donc, il prie pour que sa gloire éclate. Et sa gloire va éclater par la mort et par la résurrection. Et puis, il va prier pour ses disciples, afin qu'il les garde, qu'il les garde en son nom. Et il va dire, je me suis sanctifié moi-même pour eux, sanctifie-les par ta vérité. Et enfin, à partir du verset 20, sa prière s'élargit. Ce n'est pas pour eux seulement que je te prie. Pas pour simplement ces 12 disciples ces 11 disciples qui m'ont suivi. Ce n'est pas pour eux seulement que je te prie, mais c'est pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Et donc on est concerné là. Tous ceux qui croiront en moi par leur parole. On est concerné par cette prière de Jésus. Et j'ai tendance à croire que la prière de Jésus a été exaucée. J'ai tendance à croire que la prière de Jésus était efficace et qu'elle a été exaucée. À peine a-t-il prononcé ces mots, que cette parole a été exaucée. Mais qu'est-ce que Jésus demande dans cette prière? Il prie pour que ses disciples soient un. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? De quelle unité s'agit-il ici? Est-ce que c'est simplement le fait de former un groupe soudé, un peu comme l'équipe de France de rugby cet après-midi, hein. Est-ce que c'est simplement quelque chose de cet ordre-là? On est gentil, on a des bonnes relations, hein, on est des bons chrétiens, on s'aime les uns les autres, alléluia, c'est formidable. On se dit bonjour, on se fait la bise, enfin d'habitude, hein, mais en ce moment c'est pas ça. Est-ce que c'est simplement quelque chose de très convivial, hein, que Dieu fasse que l'Église soit très conviviale, qu'on puisse, c'est vrai, hein, s'aimer les uns les autres. Mais quand Jésus précise dans ce texte la nature de cette unité, ça va plus loin. Afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Le modèle, là, c'est la Trinité. Que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, que moi, je suis en toi. Quand on reprend un peu dans l'évangile de Jean, toutes les fois où Jésus va parler de la Trinité, on sent bien qu'il y a cette habitation mutuelle. Le Fils est dans le Père, mais le Père est dans le Fils. Il y a cette relation profonde entre le Père et le Fils qui fait qu'ils sont un. Et ils sont un, et l'Esprit Saint est là comme entourant et bénissant cette relation. Et ce que Jésus demande, c'est que tous ceux qui croiront en moi par leur parole, ils soient un. Et ils soient un en nous. Qu'ils soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme moi, je suis en toi. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Cette gloire pour laquelle ils priaient au début de ce chapitre 17, eh ben, Jésus ne la voulait pas simplement pour lui-même, mais il la voulait pour nous. Wow, wow. Alléluia, oui. Alléluia. J'ai du mal à réaliser ce que ça veut dire exactement. C'est quoi la gloire de Dieu? Puisque la gloire, par définition, c'est ce qui fait la grandeur, la majesté, la suprématie de Dieu, sa souveraineté, hein, et puis sa miséricorde qui est insondable, son amour qui est insondable. Et tout ça, c'est un cadeau. Grâce, donner, don, l'héritage, notre héritage. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Cette gloire, il nous la donne. Je ne sais pas si on réalise pleinement ce que Jésus est en train de dire. Moi, ça m'a pris des années afin de pouvoir même, ne serait-ce que le concevoir, que c'était possible, que c'était bien de cela dont Jésus parlait. Nous amener au cœur de la Trinité, nous inclure dans cette gloire, nous amener au cœur de cette relation au sein de la Trinité. Parce que c'est bien de cela dont il s'agit. Cette unité, c'est pas quelque chose d'horizontal, c'est pas simplement se respecter les uns les autres, alléluia, hein, d'avoir de l'amour les uns pour les autres, c'est plus que ça. C'est être dans le Père, c'est être dans le Fils, c'est par le Saint-Esprit. C'est participer à cette gloire qui nous a été donnée. Être chrétienne, c'est ça. C'est participer à la gloire. Être chrétien, c'est être dans le Père, dans le Fils, dans le Saint-Esprit, c'est faire un avec lui. L'apôtre Paul le dira autrement, il dira, nous tous qui avons été baptisés, ne savez-vous pas que c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, à sa résurrection. Une même plante. Dans l'épître aux Éphésiens, il utilisera l'expression « en Christ ». Nous avons été bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Jésus-Christ, toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Waouh! Waouh, Seigneur, il nous a donné cette gloire. Il nous a donné cette gloire. Je vais revenir sur ces choses. Il y a, dans le péché, et lié à la question du péché, la question de la séparation. Ésaïe nous dit que ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face, qui l'empêchent de vous écouter. Et la question du péché et de la séparation sont entièrement liées. Clairement, le péché met une séparation infranchissable entre nous et Dieu. Et ce n'est pas notre bon caractère, nos œuvres qui peuvent régler la question. Cette séparation, on l'envisage souvent comme un jugement que Dieu oppose aux pécheurs. Mais ce n'est pas ce qui est dit là. Ésaïe nous dit que ce sont nos péchés qui mettent la séparation. Ce n'est pas le jugement de Dieu qui a mis la séparation. Ce sont nos péchés qui mettent la séparation. Quand vous prenez le récit de la chute, lorsque Adam et Ève ont mangé ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que Dieu appelle l'homme pour venir vers lui, l'homme s'est caché. C'est l'homme qui a mis la séparation. C'est l'homme qui s'est caché de la présence de Dieu. Et cette question de la séparation, effectivement, il y a bien une séparation. Nos péchés mettent une séparation. Et c'est comme une auto-aliénation. C'est quelque part l'homme qui se punit, qui se prive lui-même de la présence de Dieu. Dieu vient dans le jardin et dit « Adam, où es-tu ?» Et l'homme répond « Je me suis caché. Je me suis caché, j'ai eu peur parce que je suis nu. » Paul dit dans les Colossiens « Vous étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres. Et il vous a maintenant réconcilié. » C'est pas Dieu qui a besoin d'être réconcilié avec nous. C'est nous qui avons besoin d'être réconciliés avec Dieu. N'inversons pas les rôles. Dieu n'a cessé de nous aimer. Dieu n'a cessé de nous chercher. Dieu n'a cessé de vouloir venir vers l'homme. Mais l'homme a mis une séparation. L'homme a mis un interdit. L'homme s'est caché de la face de Dieu, de la présence de Dieu. L'homme, par ses pensées, s'est rendu étranger et ennemi. Mais en Christ, les choses ont changé. En Christ, nous étions ennemis, mais nous avons été réconciliés. Le voile du temple s'est déchiré. La route est ouverte. Le chemin est ouvert. Le sacrifice de Jésus, c'est le sacrifice de la réconciliation. C'est lui qui enlève les séparations. Il a enlevé le mur de la séparation. Il a enlevé ce mur. Ce mur qui signifiait, oui, qui matérialisait cette séparation que le péché met entre nous et Dieu. Il l'a enlevé par son sacrifice. et il a voulu nous réunir à lui. La réconciliation, c'est pas allez, je suis réconcilié avec toi, mets-toi au dernier rang, là-bas au fond, hein, et puis tiens-toi tranquille et bouge, bronche pas surtout, parce que là je te rappellerai ce que tu as fait. C'est pas cette réconciliation que Dieu nous donne. C'est une réconciliation pleine et entière. Il nous rétablit en tant que fils. Quand Jésus nous dit à la fin de ce texte que nous avons lu, hein, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Waouh! Moi, j'ai envie de dire, mais qui suis-je? Pour que tu... La première chose qui me vient à l'esprit, la première phrase qui me vient à l'esprit, c'est qui suis-je pour mériter cet amour? Comme si l'amour, ça se méritait. Comme si l'amour, c'était une question, hein, de performance, de capacité, de... Ça n'a pas de sens, hein. Ça n'a pas de sens. Qui suis-je, c'est vrai, pour mériter cet amour? Je pense que c'est la question que tous on se pose, mais l'amour de Dieu, ça ne se mérite pas. Ça se reçoit. L'amour de Dieu, j'y crois ou j'y crois pas. Et malheureusement, le diable est trop souvent là à l'œuvre pour dire, mais t'es qui toi pour recevoir cet amour? Et y compris dans nos rangs chrétiens évangéliques, hein. On mesure notre capacité d'amour au nombre de réunions à laquelle on va assister, on mesure notre mérite en ce qui concerne l'amour de Dieu, au nombre de jours de jeûne qu'on va faire, au nombre d'heures de prière ou de chapitres de la Bible qu'on a eu. Voilà, bienvenue. Et l'amour de Dieu, ça se mérite pas. L'amour de Dieu, ça se reçoit. L'amour de Dieu, on y croit. Hein? L'amour de Dieu, on y croit. Et c'est tout. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Ah oui. Et c'est tout. C'est tout. Nous y avons cru. Et quand je lis ces paroles de l'évangile de Jean, je suis émerveillé. Je suis même espanté, comme on dit ici. Mais la seule chose que je peux faire, c'est y croire. Je te prie, Père, que l'amour dont tu m'as aimé soit sur eux. Et ça, si vous allez du côté du mérite, ben ça ne le fera jamais, ça ne marchera jamais. Vous savez, j'ai eu des périodes de ma vie chrétienne et spirituelle dont je suis pas très fier. Où ma vie spirituelle, elle n'était pas top niveau. Mais vous savez, ce qui m'a le plus brisé dans ces moments-là, c'est que jamais je me suis senti autant aimé de Dieu. Jamais je me suis senti autant aimé de Dieu. Et il a fallu que je sois entièrement brisé dans cette histoire de mérite. Brisé de voir que, alors que ma vie spirituelle n'était pas au top et que t'es loin d'être parfaite, Seigneur, tu m'aimes. Et je crois même que je suis passé par là pour apprendre ça. Sinon, je serais resté un propre juste. Quelqu'un qui a un but de lui-même et qui pense que parce qu'il fait une semaine de jeûne, hein, de temps en temps, eh ben ça c'est des bons points pour mériter l'amour de Dieu. Vanité des vanités. C'est du vent. J'ai jamais senti autant l'amour de Dieu que dans des périodes où moi-même je me détestais. Je détestais ce que j'étais, ce que je faisais, ce que je pouvais être, mon passé, mon présent, tout ça. Seigneur, tu étais là et tu me donnais cet amour. Quand est-ce que cet amour a pris place? Qu'est-ce que j'ai fait? Cet amour, il a pris place dans l'éternité. Il est dit que Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Avant même que quoi que ce soit de ma vie se soit passé, Dieu nous a aimés. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Avant même que nous ne soyons repentis, avant même que nous ayons fait un pas vers lui ou quoi que ce soit, il nous a aimés. Et l'apôtre Jean dira, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et puis, la parole a été faite chair. Et l'épître aux Hébreux nous dit, parce que les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort il anéantisse celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et par sa résurrection dans un corps de chair, Jésus met la dernière couche et il nous dit, regardez, je vous ai aimé, vous les humains, tous pécheurs, tous privés de la gloire de Dieu, et pourtant moi je suis venu dans une chair humaine. Et cette chair humaine, je l'ai endossée jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix, et même au-delà de la mort, parce que c'est aussi dans une chair humaine qu'il est ressuscité. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. Et cette chair humaine, il l'a glorifiée. Il est assis à la droite du Père en tant que Fils de l'homme. Il intercède pour nous et il est pour nous un sous-couvrain, un sacrificateur miséricordieux. Parce qu'il a été tenté comme nous en toutes choses. Mais il n'a pas commis de péché. Et au moment où je crois, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais pour tous ceux qui croiront en moi, par leur parole, j'ai été uni à Christ. J'ai été uni à Christ. Nous sommes devenus une même plante par la conformité à sa mort et à sa résurrection. Il y a deux choses que je veux tirer comme conclusion. D'abord, le fait que notre valeur, elle est là. Il y a beaucoup de choses dans ce monde. Et beaucoup de façons dans ce monde de chercher sa valeur. Il y a beaucoup de personnes qui vont vers, qui pensent que leur valeur, c'est la réussite sociale, c'est la réussite de les études. Beaucoup de gens pensent que je vais prouver ma valeur parce que je suis devenu populaire, que j'ai 200 000 likes sur ma page Facebook ou des choses comme ça. Ou sur mon compte Instagram. Peut-être pour les anciens, ça dit rien du tout ça, hein. Mais c'est une réalité. Voilà, c'est une réalité. Et c'est une réalité d'aujourd'hui. On est dans ce monde de l'image, du paraître. On est dans ce monde, un peu surfait, du bling-bling, comme on dit. Voilà, et y en a, un de nos célèbres chroniqueurs, qui a dit, ben voilà, s'il y a 50 ans, t'as pas une Rolex, t'as raté ta vie. Pour dire là où il met sa valeur. Et il y a des gens qui souffrent de ne pas arriver à avoir une Rolex à 50 ans. Il y a des gens pour qui, ben oui, ils ont raté leur vie. Ben d'abord, lui, il le dit. Et il passe à la télé, c'est vrai alors. Tout ça, c'est vanité des vanités. tout ça, c'est ça va passer, c'est rien du tout. Moi, ce qui me donne de la valeur, c'est de savoir que Dieu m'aime. Je ne vais pas tirer ma valeur de mon orgueil, de ma vanité, de mon pouvoir, de ma puissance, entre guillemets, de mes réussites, de mes mérites. Je ne tire pas ma valeur parce que soit j'ai fait des études, mais ça, c'est pas vrai. Hein. Ou soit j'ai réussi financièrement dans la vie. C'est pas là ma valeur. Et que Dieu fasse hein, que vous ayez fait des études, que Dieu fasse que vous ayez réussi dans la vie, que vous ayez une position sociale confortable, tout ça, ouais, ok, ok. Mais votre valeur, elle n'est pas là. Votre valeur, elle est dans le regard de Dieu sur vous. Moi, de savoir que Dieu m'aime comme il a aimé son Fils, c'est largement suffisant à me donner de la valeur. C'est largement suffisant. Et je ne veux avoir que ça finalement. Après, le reste, ça va, ça vient, ça... Mais ma valeur, elle est là. Ce savoir aimé de Dieu, vous savez, ça rend fort. Ce savoir aimé de Dieu, c'est une sécurité. C'est une sécurité. Il peut m'arriver des tas de choses dans la vie. Y compris avoir attraper le coronavirus, des choses comme ça. Mais si je me sais aimé de Dieu, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation, l'angoisse? Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Et l'autre chose que je tire de ces quelques versets, c'est que toute ma vie chrétienne part de cette union avec Christ. Toute ma vie. Si Jésus a prié ainsi, c'est pas pour épater la galerie, c'est pas pour faire beau. C'est parce que toute la vie chrétienne prend son sens à partir du moment de cette union avec Christ. Paul dira, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. J'ai travaillé plus que tous, dit-il après. Non, pas moi. Mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons, tout ce que nous accomplissons, doit être pensé à partir de cette union avec Christ. Si je fais quelque chose, c'est parce que Christ vit en moi et que moi je vis en lui. Si quelque chose de bon prend place dans ma vie, c'est parce que Christ vit en moi et je veux lui rendre gloire. Pas parce que je suis quelqu'un de sensé, d'intelligent, de spirituel, non. C'est parce que Christ vit en moi. S'il y a eu quelques réussites dans ma vie, s'il y a eu quelques avancées spirituelles, c'est parce que Christ vit en moi. C'est parce que je vis dans cette union et cette communion, afin que tout soit un comme Père, tu es en moi et que moi je suis en toi. Alléluia. L'exercice de la vie spirituelle, les dons de l'Esprit, la communion avec Dieu, c'est à envisager à partir de cette position, je suis en Christ, et Christ vit en moi. La lecture de la parole de Dieu, ça peut être quelque chose de très rébarbatif. Et je sais qu'il y a des tas de chrétiens qui n'osent pas le dire, mais qu'est-ce que ça les fatigue de lire la parole de Dieu? Mais essayez de changer un peu l'angle d'approche. Essayez de remettre ce moment de lecture de la parole de Dieu en me disant, mais Seigneur, tu as quelque chose à apprendre aujourd'hui, maintenant. Tu vis en moi. Ton esprit vit en moi et ton esprit me conduit dans toute la vérité. Tu as quelque chose à me dire. Afin que cette lecture de la parole de Dieu devienne une lecture vivante, un pain de vie au travers de cette simple fait, Seigneur, je crois que tu vis en moi. Et que je suis en toi, que j'ai été associé à cette vie spirituelle. La marche dans la sanctification vers la sainteté, c'est pas un exercice spirituel. Dans ma jeunesse, je suis allé en Inde. Et là-bas, il y a des gens qui sont dans une recherche spirituelle importante, hein. Je croisais un gars, ça faisait 2 ans qu'il avait la main en l'air. Et partout où il allait, il avait la main en l'air. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il exerçait sa volonté à soumettre son corps. Il y a des gars qui sont il y a comme une rage spirituelle. Ils veulent soumettre leur corps. Il y en a qui se pendent à des crochets, qui restent là une semaine ou deux, hein, pendus là, aux yeux, aux vues de tous. Et tout ça, c'est toujours pareil, ce sont des exercices spirituels pour soumettre le corps. Ils se contraignent à des jeûnes, ils se contraignent à des exercices de yoga, ils font des choses insensées, incroyables, incroyables. Ils arrivent des fois à des résultats incroyables. Et tout ça, c'est vanité des vanités. Et le frère, il a raison, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Hein. Toutes les religions nous enseignent que l'homme doit s'élever vers Dieu par mains efforts, des exercices spirituels tous plus fous, les uns que les autres. Ou alors on prend des drogues et allez, on y va un peu plus vite là. Mais tout ça, c'est l'homme qui veut s'élever. Alors que le message du christianisme, c'est que Dieu est descendu vers nous. Dieu est descendu vers nous. Et il s'est uni à nous par son Fils Jésus-Christ. Et nous vivons en lui. Et il vit en nous. Et ma force, c'est ça. La force de ma vie spirituelle, la marche dans la sainteté, ça découle de cette communion avec Christ. Et c'est à partir de cette communion avec Christ que je veux vivre cette sainteté. Afin qu'elle ne soit pas le fruit de ma vanité, mais le fruit de son amour en moi. Le fruit de sa vie en moi. Quand Paul parle de la vie spirituelle, il dit « Christ en vous, l'espérance de la gloire. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Alléluia. Et c'est à partir de cette communion avec Dieu, de cette union même avec Christ, que je veux envisager ce service. Dans l'Épître aux Éphésiens, Paul dira, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Alléluia. Et puis il y a quelque chose que j'ai laissé de côté. C'est ce témoignage. À 2 reprises, dans ces quelques versets, Jésus dira, afin que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés. Frères et sœurs, c'est pas simplement quand on va s'aimer les uns les autres que le monde va savoir. C'est quand on va prendre la mesure de la communion à laquelle Dieu nous appelle. Cette communion, et moi ça me paraît tellement grandiose que des fois j'ai même peur de le dire, mais cette communion, c'est de nous associer au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Et que dans cette communion, bien sûr, il y a l'amour fraternel. Et il ne peut pas en être autrement. Mais c'est là, quand le monde nous verra vivre cette communion entre frères et sœurs, mais aussi avec Dieu, avec le Père, avec le Fils et le Saint-Esprit. C'est là. C'est là qu'est notre force, c'est là qu'est notre puissance. C'est là que rien ne peut s'opposer à ça. Quand je dis puissance, attention, hein, La puissance de Christ, elle s'est manifestée à la croix. Je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu. Or, l'évangile, c'est le message de la croix. Mais c'est là que le monde nous attend. C'est là où Jésus a fait sa promesse. Les anciens, ils ont inventé un mot pour... quand je parle des anciens, je parle des pères de l'Église, les pères grecs, Polycarpe, Clément d'Alexandrie, tout cela. Ils avaient inventé ce mot, alors c'est un peu un barbarisme peut-être ce matin, ça s'appelle la périchorèse. Et périchorèse, ça a donné en français le mot de chorégraphie. Mais oui. Et littéralement, hein, ce mot, il signifie danser autour. Danser autour. Et ce à quoi Jésus nous appelle, c'est à rentrer dans la danse. À rentrer dans ce mouvement de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À rentrer là-dedans. À savoir que je, par la grâce de Dieu, je suis en Christ. Pas par mes mérites personnels, mais par cette grâce. Je suis en Christ, je vis en Christ. Il vit en moi. Et parce que ça a été rendu possible par l'œuvre de Jésus-Christ et par la croix, eh bien c'est ce témoignage. Ce témoignage au monde qui implique la communion les uns avec les autres. Mais bien plus que ça. Bien plus que ça. Il y a 2 ans de ça, on a une dame est décédée. Elle avait 103 ans. Elle s'appelle Madame Renard. Et à son enterrement, il y avait peut-être un tiers de la ville qui était là. Les croyants, puis les incroyants. Parce qu'avec son mari, ils ont prêché l'évangile toute leur vie. Mais cette femme, elle avait quelque chose de particulier. Elle avait une communion avec Dieu. Terrible. J'ai un ami qui a souvent fréquenté sa maison parce que sa maison, elle était ouverte. Il y a tellement de gens qui se sont convertis dans cette maison. Tellement de gens qui ont donné leur cœur au Seigneur. Il me disait, voilà, cet ami, c'était un punk à chien. Hein. Un gars qui buvait de la bière devant le supermarché, hein, avec ses chiens, tout ça. Mais un jour, il a croisé cette femme. Et il a commencé à aller. Il a donné son cœur à Christ. Et il me disait, mais tu sais, on allait là, on faisait des réunions de prière. Puis à un moment, la mamie, elle ne pouvait plus marcher. 90 ans, 95, elle ne pouvait plus très bien marcher. Donc elle allait voir les jeunes, elle disait, bon, écoute, le Seigneur m'a dit quelque chose, tu vas aller dans telle rue, tu vas voir une femme, elle est comme ça, comme ça, et comme ça, et tu vas lui dire ça, ça et ça. Et le gars, il partait, il allait dans la rue, il trouvait la femme, et il lui disait ce que la mamie avait dit. Il me disait, mais bien souvent, les gens éclataient en pleurs, parce que ce qu'elle disait, cette mamie, c'était pertinent. Moi, j'ai grandi dans une église aussi, il y avait comme ça des personnes âgées qui priaient. Et des fois, on arrivait le dimanche matin, on était toute une bande de jeunes. On arrivait le dimanche matin, il y avait une mamie qui vous faisait ça. Alors rien que là, moi je commençais à confesser mes péchés. Tout ça. Et la mamie me disait, mais voilà ce que le Seigneur m'a dit cette nuit pour toi. Je vous garantis qu'on leur doit beaucoup à ces papiers, à ces mamies, qui priaient pour nous jour et nuit. Nous, on était un peu dans la folie de la jeunesse, dans les soucis, et puis des fois à prendre les choses un peu à la légère. Mais heureusement qu'il y avait cette tête blanche qui veillait sur tous ces jeunes, qui priait pour tous ces jeunes. Et on est plusieurs à leur devoir beaucoup. Et je bénis Dieu Parce que des gens comme ça ont certainement peut-être plus marqué mon ministère que bien des enseignants, des théologiens, tout ça. Parce que je me disais, mais là, il y a quelque chose que je veux vivre, que je veux avoir, et qui est beau, et qui témoigne de cette communion qu'on peut avoir avec Dieu. Alors que le Seigneur soit béni, parce que cette communion, elle est pour tous ceux qui croient par la parole des amis. Amen.